Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Nathalie Janson. Bonjour Nathalie.
Bonjour Raphaël.
Professeure d'économie à Neoma Business School et présidente du think tank Génération Libre. À vos côtés, Ludovic de Sauté.
Bonjour, cher Raphaël.
Ludovic, bonjour, directeur délégué de la Tribune. Et j'ai le plaisir d'accueillir Roland Gillet. Bonjour Roland.
Bonjour.
Professeur d'économie financière à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à l'Université Libre de Bruxelles. Conseiller de différentes institutions publiques et privées. Bienvenue à tous les trois sur le plateau. L'actualité du jour, c'est évidemment la reprise des bombardements au Moyen-Orient. Bombardements qui ont fait flamber les marchés hier. Est-ce qu'il faut craindre, question toute bête pour commencer, hein, on va voir les cours du pétrole ce matin, mais est-ce qu'il faut craindre un nouveau choc pétrolier, Nathalie Janson ?
Alors, que le pétrole augmente, c'est une chose, qu'on en arrive à effectivement une inflation avec un choc externe. Bon, moi, déjà, j'aime pas trop ce terme, mais j'y reviendrai plus tard. Déjà, si on compare à ce qui s'est passé au niveau du Covid, puisque souvent, c'est un peu la tentation, quand il y a eu le Covid, plus la guerre en Ukraine, on a eu cette fameuse inflation de 2022.
Oui.
Et lorsqu'on...
Qui était de l'inflation et pas un choc de prix.
Qui était effectivement de l'inflation. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Effectivement, quand vous regardez cette période-là, vous aviez bien des prix à la production qui avaient augmenté avant que les prix à la consommation n'augmentent,
oui,
de façon très significative, puisqu'on était passé d'une base 100, enfin un peu moins de 100 en 2021, à en espace de un an à 121 au niveau de l'indice.
Donc 20%
voilà,
de hausse des coûts de production.
Puis, même
les
128.
Chaînes, les supply chains étaient complètement
disruptées. On était à quasiment 34% en l'espace de 18 mois. Donc là, prix à la production qui augmente, donc en effet, très probablement, cette hausse ne pouvait pas se gérer autrement que le passer à la consommation, d'autant plus qu'on peut le passer, puisque la BCE avait inondé le marché de liquidités.
Oui.
Donc là, je suis désolée, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est bien de l'inflation monétaire, puisque la BCE avait fait tourner la planche à billets, comme les États-Unis, enfin, comme plein de pays,
oui,
et donc on avait de l'inflation. Ici, maintenant, c'est effectivement différent. On a une tension sur le pétrole, donc un choc externe, bon d'accord, c'est un prix qui augmente, c'est comme si j'avais eu le prix, je sais pas, de quelque chose d'un élément très 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 important dans la production de beaucoup d'entreprises.
Oui, c'est quand même à la base de l'énergie qui nourrit toute la production.
C'est un élément clé dans beaucoup de cycles de production, néanmoins c'est un prix qui augmente. Donc c'est comme lorsqu'on augmente les droits de douane pour les entreprises américaines, effectivement ça augmente, qu'est-ce qu'elles font avec cette augmentation d'un prix. Donc, effectivement, soit elles peuvent le passer au consommateur ou elles ne le passent pas. En fait, c'est là toute la question. Et si elles le passent au consommateur, est-ce que eux-mêmes peuvent aussi l'assumer? Donc, on n'est pas encore du tout dans l'inflation. Par contre, il est bien vrai qu'il y a ce prix qui augmente,
oui,
que ça met en difficulté les entreprises, puisqu'elles doivent savoir qu'est-ce qu'elles font, est-ce qu'elles ont la possibilité de l'absorber, de pas de l'absorber, comment elles font. Donc, je ne dis pas que ça ne crée pas
donc
de problème.
Donc, un choc pétrolier n'est pas un choc inflationniste.
Exactement, puisque
forcément,
le fameux choc pétrolier, exactement, des années 70, c'était une méga inflation. C'était pas les prix, le pétrole n'a fait que révéler l'inflation qui était déjà là.
Vous êtes d'accord avec ça, professeur Gillet?
Oui, et puis, il y a deuxième élément que je voudrais rajouter, c'est que on s'excite, parce que c'est vrai que le pétrole est une donnée importante dans les coûts de production, mais il faut voir où il est retombé quand même. Moi, je voyais des gens qui étaient fort alarmés, et je l'avais d'ailleurs dit souvent lors de passages précédents. Oui, le pétrole est fort monté, mais vous avez vu à quelle vitesse il redescend. Il suffit juste que ça se calme un peu.
Oui.
On est redescendu en dessous 2021, et on vient de remonter un tout petit peu.
Comment on explique ça?
Regardez ce que, quand même, l'annonce a quand même été très claire. Trump fait des annonces, mais parfois, il les respecte.
Oui.
Et je pense aussi que le timing était très intelligent, on y reviendra peut-être tout à l'heure, vu sa négociation, c'est de commencer à bombarder la veille du sommet d'Ankara de l'OTAN. Donc là aussi, je pense que le timing n'est pas anodin, mais clairement...
Non, mais pourquoi c'est intéressant? Dites-nous, quelle est votre analyse là-dessus?
Ah ben parce que clairement, il est venu fort. Le détroit d'Ormuz, c'est un problème quand même d'abord chinois, asiatique et européen, parce que lui, de l'énergie, il en regorge.
Oui.
Le seul ennui pour lui, c'est le côté des prix. Mais vu les prix où ils sont tombés maintenant, c'est pas lui qui est affolé par rapport à sa source. Au contraire, pendant ce temps-là, il est une alternative pour nous en fournir à un prix plus élevé. Donc, sur ce volet-là, il est sain. Sain, j'entends, Ayen, oui. Avec T, dans son raisonnement. Mais par contre, c'est ce qu'il y a derrière, qui l'est beaucoup moins, c'est de dire, j'arrive là-bas fort, de dire, pour le moment, j'ai deux problèmes qui ne sont pas chez moi, qui ne sont pas, menacent pas les États-Unis ni le Canada d'ailleurs, qui menacent les Européens, c'est l'Ukraine, d'ailleurs, il y vient tout de suite après, et le détroit d'Ormuz. Mmh. Bon, maintenant, je suis en train de faire le boulot, est-ce qu'on est tous d'accord? Je vois mal les Européens dire, avec ce que l'OTAN dépense, mais les Américains agissent, puisse dire là-dessus. Deuxième chose, il vient sur l'Ukraine, vous avez vu qu'à ce moment-là, il est tout à fait sympathique quand on est sympathique avec lui. Il dit à Zelensky, vous êtes beaucoup courageux, c'est très très bien, ainsi de suite. Et il vient chercher, et c'est quand même là aussi très important pour lui, 100 milliards de dépenses qui vont se faire dans l'armement chez lui, des dépenses donc de matériel américain, déjà aussi parce qu'on n'est pas capable de les produire à la vitesse qu'on voudrait. Donc clairement, hier, il a toujours été comme il le fait, avec... Je suis très fâché, on reviendra tout à l'heure sur l'Espagne. Il a dit, il est fâché sur l'Espagne, et il a de bonnes raisons d'ailleurs de l'être. Mais pour le reste, il est venu et tout le monde est reparti. Vous avez vu que les déclarations côté européen ont été dans le même sens, même sur le côté des interventions en Iran, il fallait le faire, et voilà. Donc clairement, pour le moment, si tout se passe, et il a ajouté derrière une chose très importante pour nous, je pense que ça ne durera pas longtemps, vu les frappes qu'on vient de faire, vous pouvez vous retrouver dans... une semaine peut-être à un cours qui sera encore plus bas que le dernier cours qu'on a eu, qui est bien en dessous de 2021. Donc pour le moment, faire peur à toute la population en disant on va avoir un choc inflatoire, je rejoins ce que Nathalie a dit, on n'en est pas encore là. Hein.
Et on a un marché d'excès, on était en excès sur le marché pétrolier avant le conflit, il ne faut pas l'oublier. Donc,
notamment du fait des Chinois
qui ont
très nettement baissé leurs importations.
Il y a de la substitution. Les pays du Golfe le savaient que la substitution était de plus en plus importante. De toute façon, là aujourd'hui, on est plutôt quand même dans un marché qui était en surplus. C'était ce qu'on disait au début de l'analyse en disant bon, c'est gênant, mais c'est moins gênant que si on avait été effectivement déjà en pénurie.
Alors en surplus, Ludovic de Sauté, parce qu'aussi on a tapé dans les réserves stratégiques. Bon, ces réserves, où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui? Et puis il va falloir les reconstituer quand même, ces réserves stratégiques.
Oui, il y a encore de la marge, honnêtement. C'est-à-dire que là, la lecture qu'on a depuis le début de la semaine, je rebondis vraiment sur ce que disait à la fois Nathalie et Roland. C'est-à-dire que c'est pas le pétrole, la question centrale est absolument pas. Alors il y a une autre lecture quand même qu'il faut amener, je suis entièrement d'accord avec Roland, mais la difficulté, c'est quand même cette notion d'instabilité chronique. Ça, c'est la difficulté.
En même temps, est-ce qu'on croyait vraiment à ces 60 jours de négociations?
Il y a deux choses quand même. On était dans un fac-similé de paix, on va pas se mentir, donc on savait qu'à tout moment, la couture pouvait craquer, ça y est, elle est en train de craquer. Maintenant, ce qui est notable, c'est évidemment pour les États-Unis, j'allais dire le détroit d'Ormuz un peu lointain, un peu exotique, c'est pas un problème immédiat. Pour autant, ça reste un guépier. Pour autant, ça reste un réel guépier parce que dans le jeu aujourd'hui, c'est un jeu relativement équilibré entre l'Iran et les États-Unis auquel on insiste, honnêtement. Même si il y a eu des pauses, et d'abord il y a eu des pauses parce qu'il y a un problème de munitions qui commence à arriver à ce rythme-là.
C'est aujourd'hui ce qu'on disait aussi, que la pause était venue parce qu'il fallait reconstituer un peu les stocks, mais y compris américains.
Il y a une tension mondiale, on va dire, sur les munitions, et c'est une réalité des deux côtés. Mais pour autant, on est quand même dans ce jeu du chat et de la souris dans le détroit d'Ormuz avec un dialogue. Enfin, on se pince, hein. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, la capacité aujourd'hui à l'Iran d'aller provoquer, d'attaquer trois bateaux, de déstabiliser une zone de provoquer une situation, c'est quand même...
Ils ont surpris les Iraniens.
On assiste quand même à une période assez clé sur laquelle c'est pas sûr que le brillant et les chromes de Harley Davidson des États-Unis soient aussi brillants dans quelques mois. Non, c'est une réalité aussi.
Oui, il y a aussi une chose, c'est que on a vu aussi que Trump, il est plein d'annonces et il est plein de résultats, espère-t-il, parce qu'il a le midterm devant lui. C'était très malin de dire à un moment donné, je signe un accord, mais je donne des délais dedans, tout en sachant qu'il va y avoir des accros. Et à chaque fois qu'il y a des accros maintenant, il affaiblit quand même économiquement. Il faut quand même regarder en dehors de l'aspect guerrier, où je rejoins ce que vous venez de dire, mais clairement, derrière, il y a quand même le fait qu'il veut étrangler par tous les moyens l'économie iranienne, qui n'était déjà pas superbe. Et donc, aujourd'hui, les Iraniens, à un moment donné...
Et notamment par des prix bas du pétrole.
Bien sûr, et bloquer les bateaux iraniens qui ont du pétrole dedans, c'est bloquer les ressources de l'Iran. Donc, c'est sûr qu'à ce jeu-là, il y en a un qui va être plus fatigué que l'autre, d'autant plus qu'il y en a un qui, lui, dans le détroit d'Ormuz, les Américains, je pense qu'ils peuvent gérer sans problème, même si ça ne veut pas dire que l'issue reste incertaine, mais il y en a un qui va souffrir beaucoup plus fort et qui souffre déjà maintenant, c'est l'Iran. Maintenant, la capacité à souffrir de l'Iran, jusqu'où elle ira, ça on ne le sait pas. Par contre, ici, les frappes ont quand même été, semble-t-il, violentes sur des C'est ce que Trump dit et ce que les experts ont l'air de dire aussi.
Oui.
Donc, c'est peut-être pas les dernières, mais à chaque fois qu'il en rajoute une couche, il affaiblit quand même drôlement l'Iran. Et donc, aujourd'hui, on peut penser que la sécurisation, c'est une chose, du détroit d'Hormuz, risque, c'est ce qu'il dit lui pour le moment, d'arriver quand même, même s'il restera encore des problèmes à gérer en Iran, dont le problème nucléaire. Et c'est pour ça aussi, je pense, qu'il le fait en plusieurs étapes, mais il a envie d'une chose, et on le voit encore comme il sort ici. Regardez quand même quand il est sorti de Genève, enfin, d'Évian.
Oui.
Bah, il est sorti en allant signer à Versailles. Je vous avoue que moi, en tant que Belge, je suis très heureux. Je suis très heureux en France. Je me suis dit, tiens, c'est la première fois qu'on signe quelque chose à Versailles où ni les Français ni les Européens n'ont d'intérêt. Donc, généralement, le traité de Versailles, on fait partie, la France a fortiori, du lot. Là, on est venu le faire signer à Versailles. Donc, je trouve qu'il était très honoré de venir à Versailles, mais je voyais dans ses yeux, à l'habitude de Trump, il se dit, waouh, je suis quand même quelqu'un d'important et on me donne de l'importance. Donc, c'est qu'on a besoin de moi. Hier, je le voyais très friendship, hein, comme on dit, friendly, avec les Européens. Qui était très heureux de l'entendre dire on va mettre 70 encore l'année prochaine oui. pour Zelensky, et il était plutôt comme quelqu'un qui était sympathique avec celui qui fait la guerre à côté de lui, c'est-à-dire Zelensky, et les Européens qui le suivaient. Donc il joue ce jeu depuis toujours, même dans son premier mandat ici-là. Il le joue encore plus maintenant parce qu'il a évidemment plus de pouvoir. Et il sait que c'est les midterms qui vont voir s'il en a toujours autant. Donc, il faut bien le regarder sur ce vol-là. Par contre, on est tous, à cause de lui et pas grâce à lui, dans une incertitude, puisqu'il balance un truc, il en rebalance un autre. Hier, le seul truc qu'il a dit qui me semblait vraiment hors contexte, c'est quand il a parlé du Groenland. D'ailleurs, tout le monde l'a regardé, il a dit qu'un mot. Je pense qu'il s'en est rendu compte lui-même, mais pour le reste...
Bon, enfin, je vous sens pas paniqué par une reprise du conflit. Le pétrole devrait gérer. C'est vrai que
regardez, c'est ce que j'allais dire. Les marchés,
pour oui, les marchés
repartent dans le vert ce matin.
Ils ont pris acte, c'est-à-dire qu'on ne savait pas quand. C'est toujours pareil, les marchés. Comme on savait que c'était incertain, enfin que c'était fragile. Maintenant, le point de rupture, on n'avait pas la date. Bon, voilà, le point de rupture est arrivé. On ajuste et puis après on recommence. Enfin, je pense que là, on est dans une espèce de stratégie.
Mais on est autour de $74 maintenant.
Oui.
Avec ce qui vient de se passer. Il y a deux mois, on nous aurait dit on est à $74, on sautait tous de joie.
Hein,
on est les $120. Donc, 120,
c'est monté à 130 maximum.
Parce que le détroit d'Hormuz s'était considéré comme. Détroit d'Hormuz, ça montait à 150.
Alors, mettons même pour montrer à 80. Si on regarde quand même l'évolution des prix, on est plutôt dans le bon pour le moment.
Je rappelle qu'on était à $70, autour de $70, juste avant le début de la crise au Moyen-Orient, au mois de février.
Mais par contre, je trouve que ce qui est dommage, et on en a déjà parler souvent, c'est l'effet d'annonce, d'autant plus que les gens voient le prix à la pompe, sur leur morale.
Oui.
Dans une consommation fragilise des gens en Europe, je trouve leur faire peur, alors que ce n'est pas nécessaire, en disant, vous avez vu, les prix du pétrole remontent, il faut alors les relativiser par rapport où ils pourraient être, et où ils auraient dû être, comme certaines prévisions étaient, au moment où la guerre a commencé.
Il faut arrêter de faire des
annonces. Je trouve qu'on leur fait peur, et ce n'est pas bon pour notre économie, parce qu'un jour, vous aurez même des gens qui croiront qu'on va avoir la guerre, si on continue. Donc, si on rajoute l'histoire de la Pologne, dont ils ont parlé d'ailleurs hier aussi à Ankara, et qu'on rajoute le côté « oui, mais il y a ceci, il y a une hausse de l'énergie, on n'en a pas assez, ça on le sait ».
Ah le discours peut être évidemment.
Dans une période comme celle-ci, je pense qu'on devrait faire attention.
Et on a plutôt tendance à parler des trains qui arrivent en retard, Ludovic.
C'est important ce que dit Roland, mais c'est d'ailleurs notre réaction ce matin, spontanée, collective, c'est qu'on a une forme d'accoutumance à ce côté répétitif.
De résilience.
On est en train de commenter ça comme si, finalement, ça devenait l'actualité standard. Non, mais c'est ce qui aurait été un fait d'actualité majeur il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est-à-dire que finalement, on s'habitue. Pour autant, là, c'est aux Belges que je vais m'adresser. Pour autant, c'est pas parce qu'on modifie les règles et qu'on substitue un carton rouge qu'on gagne à la fin. C'est-à-dire que c'est Donald Trump, la difficulté profonde sur laquelle on est, c'est que les règles du jeu ne sont pas claires.
C'est l'instabilité permanente.
Et alors aussi, notre côté parfois bisounours, quand j'entends, et plusieurs décideurs politiques européens l'ont répété, j'étais en Espagne la semaine dernière, et aussi Pedro Sanchez, a fortiori, il a dit, on ne va pas laisser Allez, je vais dire, la loi du plus fort s'est imposée. Mais enfin, je suis désolé, que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit dans le monde microéconomique ou macroéconomique, c'est toujours la loi du plus fort qui s'impose. Maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière le plus fort et la manière de le faire, c'est autre chose. Mais quand vous arrivez dans une négociation, et Mark Rutte l'a très bien répété, Mark Rutte est hollandais.
Secrétaire général de l'OTAN.
Voilà, il prend des chiffres, on doit quand même regarder les chiffres avant de se battre, quoi. Hein. Alors maintenant, si on dit, la manière dont on nous le dit est tout à fait désagréable, il y a des choses même qui ne sont pas justes, c'est une chose de dire de l'autre côté, on peut renverser les choses parce qu'on est aussi fort. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même un peu garder raison, quoi.
Et
c'est
ça qui nous manque à certains moments. On n'est pas en capacité, en tout cas, de...
Oui, on peut dire aussi des choses désagréables, mais celui qui est en face peut nous faire mal, quoi.
Bon, on avance, on va revenir sur le sujet de l'Espagne et des États-Unis en seconde partie de l'émission, mais une des conséquences de ces reprises du conflit au Moyen-Orient hier, c'était sur les marchés souverains, le marché de la dette notamment en Europe. Le taux français à 10 ans a touché son plus haut depuis 2009. On est encore ce matin autour des 3,90. On est monté à 3,92. Est-ce que on va bientôt arriver aux 4%? C'est possible ça, Nathalie?
Ah bah oui, enfin je ne peux pas vous dire que c'est pas possible. Je mentirais.
Il y a un niveau symbolique, je veux dire.
Oui, il y a un niveau symbolique. Mais c'est vrai que là, vous voyez bien que les annonces des dernières semaines, enfin même de la semaine dernière, on a les révisions à la baisse de la croissance.
De la croissance, c'était mardi.
Voilà,
le comité
qui convergent, des rapports de l'OCDE qui sont pas foufou, le FMI pareil. Et puis en même temps, on a l'Allemagne, bon, qui ne va pas bien, mais qui a l'air de vouloir faire des réformes qui vont plutôt dans le bon sens. Donc si vous êtes sur le marché du souverain, vous voyez celui qui a quand même plus de capacité que nous à s'endetter, enfin dans sa, bon, il a une marge énorme, l'Allemagne, oui, beaucoup de marge, qui va à nouveau,
une
qui
dette
s'endette,
de voilà, au niveau de la France,
et qui va s'endetter à nouveau par rapport à un pays qui est un peu exempt, qui s'est déjà beaucoup endetté et qui veut pas se réformer. Bien, je peux comprendre que le marché du souverain se dise que peut-être que l'Allemagne, finalement, je vais l'acheter, je vais le préférer à la France dans mon panier de diversification. Je ne dis pas que c'est la fin de la France, je dis simplement que au niveau des arbitrages, l'Espagne va bien, c'est pareil économiquement. Enfin, quand vous regardez, vous faites votre panier de souverains européens, bah effectivement, la France semble pas celle qui aille le mieux. Donc, bah, c'est voilà, par mécanisme de marché, c'est celle dont le taux augmente. Enfin, ça me paraît pas vraiment.
Ça a des conséquences pour nos finances publiques.
Il y a quand même un pays qui fait pire, c'est le Royaume-Uni.
Oui, mais
ça va vraiment
mal.
L'Italie, la France, c'est le Royaume-Uni.
Non, non, sur l'échelle, parce que vraiment, le grand malade en ce moment, c'est le Royaume-Uni.
Bien sûr. Mais pour l'investisseur, c'est pas son panier euro.
C'est-à-dire, là, la séquence, et c'est en ça que l'instabilité chronique est mortifère. C'est-à-dire que la séquence, là, elle révèle toutes les fragilités de la situation française, très clairement. C'est-à-dire le fait que nos marges de manœuvre sont faibles, qui plus est à 10 mois d'une présidentielle qui va faire monter la tension et qui va probablement inaugurer une forme de concours Lépine de propositions diverses et variées qui vont rassurer une partie des investisseurs. Ça, c'est très, très probable. C'est dans les propositions qui vont être mises sur la table. Maintenant, c'est, j'allais dire, la France... probablement dans la décennie dans laquelle nous sommes rentrés depuis le Covid, on va essayer de le dater comme ça, la France aborde une période assez cruciale au plan géopolitique, au plan économique, dans une situation de fragilité qui est extrêmement complexe. C'est-à-dire que le calendrier français des réformes, ce pays a mis trop longtemps à se réformer, contrairement à l'Espagne. Ça,
on est bloqué depuis 18 mois maintenant.
On est bloqué depuis 18 mois, mais là, on rentre dans une séquence où on va le payer deux fois plus cher, honnêtement, parce que c'est, il y a des questions de morale, de consommation. On est quand même dans un hiver un peu anxiogène et on n'a pas le sentiment que l'économie va redémarrer du jour au lendemain et des taux de croissance qui permettraient de nettoyer un petit peu les grands indicateurs et de se dire, OK, il y a des marges de manœuvre. Non, la situation est très, très complexe et malheureusement, j'allais dire, on va devoir faire des réformes dans un régime très douloureux, c'est-à-dire à la fois en ayant mal et en ayant de la fièvre. Donc ça va être très compliqué.
En ayant très peu de croissance, on pourrait tomber dans une crise de la dette en France. On en parle depuis 20 ans, 25 ans, Roland Gillet. Le rapport Pébro tirait la sonnette d'alarme au début des années 2000. On voit que finalement, on continue de tourner. Bon, là quand même, si on approche les 4% sur le 10 ans, est-ce qu'à un moment... on peut tomber dans un effet boule de neige qui fait qu'on n'arrive pas à se sortir d'un surendettement constant.
En tout cas, il fait certainement mal par rapport à la volonté de dire on continue le social comme on voudrait le faire. Parce qu'avant, le social, il coûtait pas cher avec une dette qui était à ce niveau. Or, chaque fois qu'on a fait du social, et j'ai pas dit qu'il fallait le faire, c'est ce taux de financement qui rentre dans le budget, c'est les intérêts. la dette, elle s'accumule à côté comme un bilan de société. Mmh. Par contre, dans le budget de l'État, et ce qu'on dit chaque année, le déficit, il est lié aux intérêts, bien entendu, également. Mais les intérêts à vendre ne coûtaient pas cher. Moi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de bien quand les taux d'intérêt remontent, même si ça fait mal à un moment donné, c'est que c'est aussi un effet autodisciplinant pour celui qui fait cet endettement.
Si vous avez c'est même états, la seule corde si de rappel. Mais,
oui, si vous avez des états, et je ne dis pas qu'au moment du Covid, ce n'était pas sûrement pas l'objet de dire que ça ne servait à rien, au contraire, il fallait bien faire quelque chose avec une crise exceptionnelle comme ça, qui permette de s'en sortir, mais quand les taux tombent à zéro, et qu'ils restent à zéro, au-delà de la crise du Covid, ou presque, et en termes réels, sont même négatifs.
Oui.
Ben, ça ne pousse pas celui qui s'endette, c'est-à-dire l'État, à s'autodiscipliner.
Bah pendant 10 ans, dans le budget, on a augmenté la dette, mais ça nous coûtait de moins en moins cher.
On est parfois très égoïste, je sais que les hommes politiques ne sont pas tous comme ça, mais vous pouvez dire, je fais des dépenses maintenant qui me donnent une popularité, en sachant que c'est probablement un gouvernement après qui payera des intérêts positifs réel sur cette dette. Donc clairement aujourd'hui.
Alors vraiment certains politiques pensent comme ça.
J'ai dit qu'une majorité non. Je dis que ça pourrait tenter certains. Vous êtes d'accord?
Le public choice vous donne raison.
Voilà. Enfin, voilà, voilà. Donc, Nathalie, merci beaucoup. Non, mais c'est clair. Mais je veux dire, dans ces moments-là, c'est ce qui permet un peu de discipline. Allez, vous avez des gens qui se sont battus sur les idées et qui sont toujours là aujourd'hui dans le raisonnement de gens rationnels. C'est des gens comme Modigliani Miller, ils ont reçu le prix Nobel pour ça. Et qu'est-ce qu'ils expliquent? C'est que forcément, le taux d'intérêt, il est censé, à un moment donné, refléter le risque.
Oui.
Et donc, aujourd'hui, je réponds à votre question. Quand les taux montent à 4%, il n'y a pas uniquement l'inflation. C'est de dire, puisqu'on continue à s'endetter, dans un pays où on sait qu'on devrait faire attention, mais qu'on n'arrive pas à s'en sortir pour des raisons politiques, pour des raisons que l'effort, on ne le fait qu'un certain temps, puis on saute à autre chose, et bien à un moment donné, il y a des gens qui effectivement se disent pour le moment, la seule manière
de... Nos créanciers se réveillent.
Et ça fait d'autant plus mal qu'à ce moment-là, les comptes que vous avez fait l'année avant avec des taux d'intérêt plus bas, vous les retrouvez avec un effet qui n'est pas encore boule de neige, mais qui vous fait mal dans vos projections à vous. Et comme Nathalie vient de le dire, 4%, pourquoi pas 4,5%, ça dépendra de plusieurs choses.
D'accord.
Mais c'est clair que de rajouter à la louche chaque fois de l'endettement, pour des raisons, même le côté militaire aujourd'hui, avec l'idée quand même un jour de ne pas s'en servir, du militaire, ça n'a qu'un effet direct dans l'économie une fois. Ce n'est pas comme si c'était une dépense d'investissement où vous créez quelque chose dont vous allez vous servir. Des armes, c'est pour le côté sécurité, c'est pour le côté défense passive pour le moment, mais tout ça coûte très cher et ça vient se rajouter à un paquet d'endettement qui est déjà élevé.
Je pense que la charge de la dette est passée 35 à 70
milliards. Et c'est possible aussi que la génération future, c'est-à-dire les jeunes aujourd'hui, doivent peut-être que personne, la majorité ne s'en rende pas compte, se dire c'est un peu normal que ceux qui ont engagé les dépenses maintenant en subissent aussi une partie du coût et que ce ne soit pas quelque chose qu'on aura adressé nous seuls, même le coût de ce financement, parce que imaginez que les taux d'intérêt restent autour de 2% et que l'inflation reste autour de 2%, pour le moment en termes réels, on ne paie rien. Hein. Oui. Donc clairement, l'État est content, tout le monde est content, mais ceux qui vont récupérer un jour la dette ou là... À ce moment-là, les taux d'intérêt reviendraient dans une structure normale, eux vont payer réellement le coût. Or, ce n'est pas eux qui ont engagé les dépenses.
C'est ça qu'il faut bien expliquer, parce que c'est un raisonnement d'économie que tous les économistes connaissent, R supérieur à G ou vice-versa, entre les taux d'intérêt et la croissance. Bien rappeler qu'aujourd'hui, alors on affiche des taux à 10 ans à près de 4%, mais le coût moyen de la dette française est autour de 2%, puisqu'elle est étalée sur 8 ans, et que la dette qu'on a contractée il y a 8 ans était une dette quasiment à taux zéro. Mmh. Aujourd'hui, on voit qu'on est quasiment à 4%, vous faites la moitié, on arrive à 2%. Mmh. La croissance, y compris avec l'inflation, est également autour de 2%. Donc, tant qu'on est dans cette situation, ce que vous nous dites, Roland Gillet, c'est que c'est soutenable.
Ah, soutenable, oui, bien heureusement, parce que si ce n'était pas soutenable, un pays comme la France, en plus, vous imaginez. Moi petit voisin belge, si je pensais un tout petit peu à que la dette française n'est pas soutenable, je pense que je ne serais plus en Europe. Parce que le problème est très grave.
Sauf que le risque, c'est qu'au fur et à mesure, la dette qu'on a contractée il y a 8 ans, on va se réendetter pour la payer aujourd'hui à 4%, et que ce taux va monter alors qu'on voit la croissance, qui baisse.
Et vous avez aussi cet aspect.
Donc là, on est un peu au pied du mur.
Oui, et avant, les gens qui géraient la dette ont été malins. Ils ont vu qu'ils pouvaient s'endetter non seulement à des taux très bas, mais à très long terme. Oui. Donc ça, ça permettait justement de dire on assure au moins un crédit très court.
Rallonger la maturité.
Mais aujourd'hui, ce que vous avez, avant vous aviez plus ou moins ça comme courbe des taux, maintenant on est plutôt sur quelque chose qui monte comme ça. Mm. Mais si à un moment donné, on voit qu'il y a des risques plus élevés, pas sur la soutenabilité directe, mais en tous les cas sur la crédibilité de l'endettement en France ou ailleurs, vous allez avoir une pontification évidemment en plus. Et cette pontification va faire que les taux longs, pour s'endetter long, il faudra payer beaucoup plus cher, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, donc ça change quand même drôlement.
Oui, heureusement, le coût effectivement, de la dette, on avait avant le Covid, on avait beaucoup utilisé la dette à 30 ans. D'ailleurs, c'était le cas de tous les pays européens. Mais effectivement, la pontification, ça, c'est ce que redoute en fait tout le monde, c'est qu'elle continue, qu'il y ait une accentuation de cette pente et que par conséquent, bien, ça devienne de plus en plus cher. Et donc là, ce fameux taux d'intérêt nominal soit effectivement beaucoup plus élevé que la croissance.
Actuellement, on est d'accord.
Exactement, ce qui se passe actuellement. Et d'autant plus qu'avec ce niveau de dépenses publiques qu'on a, on a aussi d'un autre côté le problème d'un rendement négatif de l'effet de la dette. C'est-à-dire qu'en on s'endette, mais la dépense publique n'a plus d'effet positif en fait, sur l'économie. C'est le problème de l'étouffement. Donc là, on se retrouve presque d'ailleurs dans un scénario...
La grenouille dans la marmite,
voilà, exactement.
Comme on dit.
Je vais sauter. Roland, parce que c'est sur cette notion là, d'investissement, notamment sur la défense, c'est assez intéressant et je pense que ça mérite une petite pause. C'est-à-dire que dans les grands dossiers aujourd'hui que doivent prendre les économies européennes, y compris la France, chacun dans la situation, il y a quelque chose, autant l'IA, on peut parler d'une bulle et tout ça, mais l'IA, on va dire, il y a un pari sur le fait de créer une économie. On a quatre grands dossiers sur lesquels c'est des investissements sur lesquels on n'est pas sûr que derrière, à la clé, il y a une économie. C'est l'adaptation climatique, la défense, la démographie et la souveraineté.
C'est-à-dire une grande révolution qui nous tend les bras.
Ça demande quoi? C'est quatre dossiers qui ont un point commun. Ça demande de la mobilisation, c'est-à-dire l'investissement, mais pas pour autant dans la certitude que derrière, on crée des chocs économiques. C'est-à-dire, c'est juste mettre les pays à niveau sur des enjeux qui sont des enjeux structurels forts. Hein. Et c'est là où la dette se paye très cher. Parce que là, on est dans une période où probablement sur ces grands dossiers-là, la dette, la capacité à s'endetter à bon prix serait très, très utile.
Bien sûr.
Et on ne l'a pas. C'est-à-dire, on ne l'a pas parce que, j'allais dire, le rythme courant des dépenses publiques font que ce sont des dossiers sur lesquels, là, si les pays ne se préparent pas à ces enjeux-là, là, on va avoir des problèmes structurels importants.
Dans un environnement qui est plutôt à la hausse.
Mais vous voyez aussi que les banques centrales, et notamment en Europe, et ça devient aussi le problème, c'est quand on ne peut plus le faire budgétairement, avec des taux d'intérêt qui doivent être à un moment donné, s'ils sont dans l'ordre de ce que la finance, et même pas la finance, de ce que la logique d'un investissement pour un investisseur doit être, c'est de dire, si je prête de l'argent à l'État comme à un autre acteur, je dois au moins avoir une rémunération minimale au-delà de l'inflation, ce qui n'est presque plus le cas. Donc clairement, si vous dites j'ai besoin d'argent à un taux plus bas, à qui faites-vous appel automatiquement? À la banque centrale, la vôtre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, elle biaise les règles du jeu, hein, c'est la politique du quantitative easing et du reste, c'est-à-dire elle rachète de la dette pour faire baisser évidemment le taux. Et donc on joue un jeu comme ça. Mais attention, et c'est ça que je trouve qui est dangereux, c'est qu'après ça devient le rôle pratiquement de la banque centrale, alors que ses attributs c'est de conserver le pouvoir d'achat de la monnaie et éventuellement l'emploi. Si on donne à la banque centrale des rôles qu'elle n'a pas, alors ça devient dangereux parce que c'est la banque qui joue la politique économique d'un État qui doit faire attention à son budget.
Bon, ce sera le mot de la fin. On se retrouve dans une minute. Restez avec nous. On va essayer de voir pourquoi Donald Trump s'en prend à l'Espagne dans la seconde partie de l'émission. Et s'il faut mettre la fonction publique au régime sec, c'est un peu ce qu'a annoncé hier le ministre des Comptes publics, David Daniel. On se retrouve tout de suite. Ne quittez pas.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.